Bonsoir à tous. Les hommages à Samuel Paty dans toutes les écoles, collèges et lycées de France. Minutes de silence, débat en classe, projection de documentaires sur la laïcité. En aucun cas, la mémoire de Samuel Paty ne sera oubliée, déclare Jean-Michel Blanquer. Nous serons dans un instant au collège Émile Guillaumin dans l'Allier. La Grande-Bretagne ébranlée, un député conservateur poignardé à mort cet après-midi dans sa circonscription à Londres. Le Premier ministre britannique Boris Johnson exprime son choc, sa tristesse. L'hommage à Hubert Germain, aux Invalides, l'ultime héros des Compagnons de la Libération. Emmanuel Macron a salué l'engagement et le courage d'Hubert Germain. Dans ce journal également, les obsèques sous tension au Liban des 7 personnes tuées hier lors d'affrontements au cours d'une manifestation. L'Allemagne, où le tempo s'accélère en vue de la formation de la coalition du gouvernement. Le vaccin Moderna bannit temporairement des doses de rappel. Et puis nous irons à la cour d'assises spéciale de Paris pour le procès des attentats du 13 novembre avec aujourd'hui des mamans à la barre. À 19h20, le téléphone sonne, Claire Servagen, et ce soir des maladies cardiovasculaires au féminin.
Et oui, car on l'oublie trop souvent, c'est la première cause de mortalité chez les femmes avec 200 décès par jour qui pour beaucoup pourraient être évités avec une meilleure hygiène de vie, si les médecins étaient plus à l'écoute, si les femmes elles-mêmes ne faisaient pas toujours passer la santé des autres avant la leur. Agir pour le cœur des femmes, on en parle avec nos invités et avec vous tous au 01 45 24 7000.
France Inter. Il faisait juste son travail un an après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Des commémorations et des hommages sont programmés tout au long du week-end. Mais aujourd'hui, tous les établissements scolaires de France, du CM1 à la terminale, ont rendu hommage au professeur d'histoire et géographie avec une minute de silence, des échanges en cours et la projection en classe de documentaires sur la laïcité. Samuel Paty, décapité le 16 octobre 2020 par un islamiste pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Au collège Émile Guillaumin de Condallier, les 250 élèves et l'équipe pédagogique ont rendu hommage au professeur dans le gymnase avec des textes et des chants sous les yeux des parents très discrets de Samuel Paty. Une plaque commémorative a été inaugurée à l'entrée du CDI qui portera le nom de l'enseignant. Reportage Camille Dupenoir.
Des textes écrits par les élèves pour rendre hommage à leurs enseignants, un medley de chansons françaises pour évoquer les valeurs républicaines, celles de l'école. Dans le gymnase du collège, 250 élèves prennent part à l'hommage à Samuel Paty sous les yeux de ses parents, très émus. Un peu plus tôt, Romane, en classe de 3e, participe à l'inauguration d'une plaque commémorative.
On en a souvent parlé, en cours d'histoire surtout. On a fait pas mal de débats par rapport à la mort de Samuel Paty et tout ce qu'il y avait autour, la liberté d'expression, les caricatures, le métier d'enseignant.
Il y a eu un avant, il y a un après Samuel Paty dans les classes. Ici, les débats, les discussions autour de l'école ont été nourris tout au long de l'année écoulée.
On a fait pas mal de travail dessus, mais c'est sûr que c'est très important et étant donné qu'on est un pays laïque et démocratique, pour retenir toutes ces valeurs.
Ludivine est professeure documentaliste. Son centre de connaissances et de culture, anciennement CDI, portera désormais le nom de l'enseignant assassiné, un vrai symbole.
Je pense que c'est un événement qui les a quand même profondément marqués, du fait de la violence de l'événement et aussi de tout l'impact que ça a au niveau des apprentissages au collège. C'est quelque chose qui les marquera tout au long de leur scolarité et c'est pourquoi ils ont voulu s'investir aussi dans ce projet.
Le travail de mémoire autour de la mort de Samuel Paty va bien sûr se poursuivre ici à Émile Guillaumin comme ailleurs.
Camille Dupenoir de France Bleu, pays d'Auvergne. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a participé à l'hommage avec les élèves et les professeurs du lycée Jean de La Fontaine à Paris. En aucun cas, la mémoire de Samuel Paty ne sera oubliée, dit-il.
Ces hommages sont pérennes d'ailleurs, je tiens à le dire, puisque nous baptisons des salles Samuel Paty, nous baptiserons des établissements Samuel Paty, des écoles. Ainsi, nous montrons que la mémoire de Samuel Paty, en aucun cas, ne sera oubliée, elle est inscrite dans nos esprits. Aujourd'hui, je suis allé d'abord dans une classe de première, où dans le cadre d'un cours d'histoire, nous avons parlé du terrorisme, du fait que les terroristes cherchaient à faire peur, et que ce que nous avons à opposer à ça, c'est justement la sérénité et la force de la République et de la démocratie. Et je suis toujours rasséréné de voir que les élèves spontanément parlent de la liberté et savent que la liberté est un bien extraordinairement précieux. Elle doit être défendue, tout simplement. Samuel Paty est mort pour ça, et si nous voulons donner un sens à ce qui s'est passé, eh bien c'est justement en ne reculant jamais d'un centimètre ni sur les valeurs de la République, ni sur la démocratie, et donc sur la liberté.
Jean-Michel Blanquer, propos recueillis par Julien Morcelli. Et puis Hassan Chaloumi, le président de la Conférence des imams de France, a appelé tous les imams et tous les musulmans à prier pour Samuel Paty.
L'effroi en Grande-Bretagne où on a appris cet après-midi la mort d'un député conservateur poignardé à plusieurs reprises.
Oui, le député a été poignardé alors qu'il tenait sa permanence parlementaire dans une église de sa circonscription dans l'est de Londres. Le député britannique David Ames avait 69 ans. La police locale a annoncé l'arrestation d'un homme. On retrouve en direct de Londres Richard Place. Bonsoir Richard.
Bonsoir.
Et la mort de ce député a profondément choqué le pays.
Oui, profondément, parce qu'elle rappelle celle de Jo Cox, une autre députée assassinée il y a 5 ans, et elle met en avant à nouveau en lumière la sécurité des élus, savoir s'il faut les entourer encore un peu plus de police. Vous l'avez dit, David Ames a été attaqué par un homme avec un couteau, un homme âgé de 25 ans qui lui a mis plusieurs coups de couteau alors qu'il discutait avec des électeurs de sa circonscription dans une église baptiste dans sa circonscription. C'était autour de midi aujourd'hui. L'agresseur a rapidement été interpellé. Les secours sont intervenus au plus vite. Ils ont passé 2 heures avec David Ames pour essayer de le sauver, mais ils n'y sont pas parvenus. Il est finalement décédé, donc, alors que il suscite une énorme vague d'émotions dans le pays, avec le Premier ministre lui-même, Boris Johnson, qui a pris la parole il y a quelques minutes pour parler d'un excellent serviteur de l'État et dire que les cœurs aujourd'hui étaient remplis de tristesse et extrêmement profondément choqués.
Richard Place, en direct de Londres, à l'étranger encore. Le Liban, un pays à cran où la tension est vive au lendemain des violents affrontements lors d'une manifestation, affrontements qui ont fait 7 morts, dont 6 victimes dans les rangs des 2 partis chiites, le Hezbollah pour l'Iranien et son allié, le mouvement Hamal. Les funérailles ont eu lieu aujourd'hui dans une atmosphère très tendue. Sur place, Aurélien Colli.
Des milliers de personnes rassemblées dans la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah, une retransmission en direct des funérailles par la télévision du parti, des prières, des tirs en l'air, mais pas de débordement, pas d'apaisement non plus, avec un prêche véhément d'un haut responsable du parti pro-iranien. Il a une nouvelle fois accusé le parti chrétien des forces libanaises d'avoir délibérément provoqué un massacre hier en tirant sur les manifestants chiites afin de jeter le pays dans une nouvelle guerre civile. Nous ne serons pas entraînés dans une sédition communautaire, a poursuivi le religieux, en promettant quand même que le sang de ces martyrs ne sera pas vain et en appelant à affronter ce parti à la solde des Américains. Pas de quoi calmer les esprits, alors qu'un journal proche du Hezbollah publiait déjà en une ce matin la photo du chef des forces libanaises en uniforme nazi avec moustache d'Hitler, les portraits de plusieurs diplomates aussi, dont l'ambassadrice de France, barrée de la mention, il savait. De son côté, le parti des forces libanaises a démenti toute implication en accusant des éléments armés du Hezbollah d'avoir envahi un quartier chrétien, entraînant une riposte de ses habitants. Il réclame également une enquête officielle, alors que dans les quartiers de Beyrouth qui se sont enflammés hier, l'armée reste massivement déployée.
Aurélien Colli à Beyrouth. Le tempo s'accélère en Allemagne en vue de la formation de la prochaine coalition de gouvernement. Les sociaux-démocrates, arrivés en tête aux élections du 26 septembre, ont annoncé aujourd'hui un accord préliminaire avec les Verts et les Libéraux, un gouvernement sans doute dirigé par Olaf Scholz. Berlin, Luc André.
La feuille de route tient en 12 pages et sans surprise, la transition vers un monde décarboné constitue un projet majeur, explique le social-démocrate Olaf Scholz, destiné aux fonctions de chef du gouvernement.
Cela va être probablement le projet de modernisation industrielle le plus important que l'Allemagne aura connu depuis plus de 100 ans. Cela aidera grandement notre développement économique.
La transition passera par des milliards d'investissements, en particulier dans les énergies renouvelables. La neutralité carbone pourrait être atteinte sous 15 ans, estime le patron des écologistes Robert Habeck. Même les libéraux, pas forcément les plus enthousiastes sur la politique climatique, sont satisfaits, à l'instar de leur chef Christian Lindner.
Pour nous, c'est une chance énorme de lier prospérité et sensibilité écologique. L'Allemagne peut donner l'exemple en Europe et dans le monde.
Pour trouver un terrain d'entente, chacun a lâché du lest. À gauche, exit les hausses d'impôts pour les plus riches. Chez les Verts, adieu la limitation de vitesse sur autoroute. Les libéraux, quant à eux, ont accepté une forte hausse du SMIC. Les 3 partis doivent maintenant se prononcer d'ici lundi sur l'ouverture de négociations. Si le feu vert est donné, il faudra patienter encore quelques semaines avant la formation du gouvernement. Berlin, Luc André pour France Inter.
19h10 sur France Inter, c'est la suite du journal de Frédéric Barrère avec l'hommage à l'ultime héros des Compagnons de la Libération aujourd'hui aux Invalides.
Emmanuel Macron a présidé aujourd'hui cette cérémonie d'hommage national à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, mort mardi à l'âge de 101 ans. Les honneurs militaires lui ont été rendus par les soldats au képi blanc de son ancienne unité, la 13e demi-brigade de Légion étrangère. En ouverture de l'éloge funèbre, Emmanuel Macron a déclaré que la vie d'Hubert Germain est une anthologie d'engagement et de courage. Sur place aux Invalides, Maxence Lambrec.
Son cercueil, recouvert du drapeau tricolore, est baigné de soleil au cœur des Invalides où il a résidé jusqu'à sa mort. Emmanuel Macron s'incline devant le héros de Bir Hakeim.
Sa détermination est plus incandescente que les fusées qui zèbrent le ciel au milieu des lignes allemandes.
C'était le 11 juin 1942 en Libye. Puis il participe au débarquement de Provence, reçoit des mains du général de Gaulle la croix de la libération.
Il fut le dernier à rendre les armes. Résistant de la première heure et ultime héros de ce cercle de combattants désormais disparus.
Et c'est pourquoi il sera inhumé dans la crypte du Mont Valérien le 11 novembre prochain.
L'ordre de la libération lui survivra, indépendant et fidèle à son histoire. J'en fais ici le serment.
À l'heure où Éric Zemmour veut réviser l'histoire de France, Emmanuel Macron s'engage donc ici solennellement à porter ce message.
Ne rien céder de la liberté de la patrie et de son âme. Et notre tâche sera de poursuivre avec la même ardeur ce combat.
Ce combat, Jean-Paul, petit-fils de résistant venu sur le parvis, l'appréhende sans crainte.
Moi, je suis pas particulièrement préoccupé par, vous savez, on dit un polémiste va se présenter. Mais tout ça, c'est un peu l'écume des choses. Et je pense que cet ordre de la libération va perdurer dans les mémoires, quoi qu'on dise, quoi qu'on craigne.
L'ordre de la libération gardera notamment son très riche musée ici, aux Invalides.
Et Emmanuel Macron qui est attendu ce soir à Marseille où il revient pour s'assurer de la bonne application du plan de 1,5 milliard d'euros annoncé en septembre et baptisé Marseille en grand. Le vaccin Moderna banni temporairement des doses de rappel, recommandation de la Haute Autorité de Santé en France en raison d'un risque et notamment chez les hommes âgés de moins de 30 ans. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
C'est donc par principe de précaution que Moderna est déconseillé.
Oui, la Haute Autorité de Santé s'appuie sur une alerte émise par plusieurs pays scandinaves. Des études récentes y estiment que les hommes âgés de moins de 30 ans ayant été vaccinés avec le Moderna ont un risque légèrement accru de développer des myocardites et des péricardites, des inflammation du cœur, pour la plupart bénigne, mais la Finlande et la Suède ont préféré suspendre l'administration de ce vaccin pour les moins de 30 ans. En France, la décision de la Haute Autorité de Santé ne concerne que les injections de rappel. Seuls les plus de 65 ans et les professionnels de santé ayant un schéma vaccinal complet de plus de 6 mois, ainsi que les personnes immunodéprimées et leur entourage sont concernées. Elles ne pourront recevoir que du Pfizer-BioNTech, car c'est le seul vaccin qui a reçu son autorisation de mise sur le marché en tant que dose de rappel de la part de l'Agence européenne du médicament. La France avait en fait un peu mis la charrue avant les bœufs en autorisant également le Moderna. Par prudence, elle retire donc le vaccin du laboratoire américain des doses de rappel en attendant la décision de l'Agence européenne du médicament. Elle devait être rendue d'ici 2 semaines.
Hélène Chevalier, merci. Et puis sachez que les États-Unis vont lever le 8 novembre les restrictions pour les voyageurs vaccinés. La date du 8 novembre a été annoncée par la Maison Blanche, une date très attendue notamment par les familles dispersées.
On en vient, Frédéric, au procès des attentats du 13 novembre 2015 devant la Cour d'assises spéciale de Paris.
Et avec les témoignages des victimes, aujourd'hui avec des mamans à la barre qui ont raconté cette nuit d'horreur, leur douleur, la famille disloquée et la perte d'un enfant. Bonsoir Charlotte Piré.
Bonsoir.
La Cour d'assises spéciale de Paris a entendu Florence, la maman de Caroline, mais aussi Sylvie, la mère d'Élodie.
Je suis une maman désenfantée. Florence s'est avancée à la barre. Sa fille Caroline, 24 ans, a été assassinée au Bataclan. Tu as dû ressentir de la terreur. Je le sens, souffle sa mère en larmes. Florence a toutefois trouvé un peu de réconfort lorsqu'elle a découvert sur une photo que sa fille était morte dans les bras d'une autre victime inconnue. Sylvie, elle, se souvient des paroles du légiste. Il m'a dit qu'Élodie avait de la joie sur son visage. La balle a emporté tout son cerveau. Elle n'a rien senti. Sylvie, heureuse aussi que dans ces dernières années, sa fille ait trouvé trouvé sa voie dans le design, qu'il ait eu le temps de connaître l'amour. De bien faible réconfort toutefois, ceux qui ont tué du même âge que toi, ceux-là ne savent pas la douleur de perdre un enfant, lance Florence, qui a développé un cancer 6 mois après l'attentat et qui se surprend encore à attendre un appel de sa fille. Sylvie, elle pense parfois aux parents des terroristes. En tant que maman qui a donné la vie, rappelle-t-elle, je me dis qu'ils doivent aussi être malheureux et ne pas comprendre pourquoi leurs enfants sont devenus ces gens-là.
Et puis Charlotte, au bout de 3 semaines de déposition des parties civiles, les accusés perdent leur calme dans le box.
C'est d'abord Mohamed Amri qui dit son agacement. Une personne fait que me fixer et me parle de loin. Dans la salle, la victime en question se lève, l'alpague, avant d'être emmenée vers la sortie. Plus tard, c'est au tour de Mohamed Abrini de s'énerver contre l'équipe de gendarmes dans le box depuis cette semaine. Ses andouilles, cette équipe d'handicapés. Son voisin, Mohamed Bakali, renchérit. On doit encaisser 7 fouilles par jour, on nous dit chut. Le président rappelle l'interdiction pour les accusés de se parler pendant l'audience. Plusieurs accusés crient dans le box, c'est la cacophonie. Puis le calme revient, mais pour quelques minutes à peine, car Salah Abdeslam veut quitter ce box. Ce n'est pas vous qui décidez comment ça se passe, tranche le président. Moi aussi, je peux monter le ton, rétorque le principal accusé. L'audience est suspendue. Les 3 semaines de récits d'horreur ont rendu l'ambiance particulièrement électrique.
Charlotte Piré avec Geoffrey Marianne pour les moyens techniques au palais de justice sur l'île de la Cité. À Paris, c'est un meuble de rangement tout simple et que l'on va retrouver dans les bureaux des plus hautes institutions de la République. Ce meuble fabriqué par l'atelier Emmaüs fait son entrée dans la collection du prestigieux mobilier national. C'est bien sûr une première. Ce meuble de 50 cm est conçu à partir de matériaux réemployés et baptisé Henri en hommage à Henri Grouesse, l'abbé Pierre. Faustine Calmel.
Quand on pense mobilier national, on a plutôt tendance à visualiser des commodes Louis XV, des designers de renom et des matières nobles. Henri, lui, est un parallépipède coloré et écolo, fabriqué avec de vieux bureaux d'écoliers, un ancien tableau en ardoise et du bois de récup, par des personnes en difficulté. Alors à l'idée qu'il s'installe sous les ors de la République, Guillaume Poignon, le directeur de l'atelier Emmaüs, est comblé.
On prend place à côté du meilleur de l'artisanat et du design de ces quelques centaines dernières années. Je ne sais pas si on a la même valeur, mais en tout cas, on a une valeur symbolique à être là, au milieu d'eux. Donc c'est une reconnaissance de notre vision d'insertion pour les personnes qu'on accueille. Ça met un petit peu de pression, ça décuple l'envie d'aller plus loin.
Et le chemin peut être long pour les chômeurs, réfugiés ou jeunes de l'aide sociale à l'enfance qui fabriquent Henri. Alors l'entrée au mobilier national, c'est un soutien et une ouverture que défend son directeur, Hervé Lemoine.
De reconnaître que la forme, l'usage d'un mobilier, c'était pas forcément quelque chose de luxueux, c'était pas quelque chose forcément d'exceptionnel, comme on a l'habitude de le considérer, mais ça pouvait être une démarche très simple sur des bases exemplaires, je trouve, en termes de création, en termes d'éco-responsabilité, etc. Et donc, je n'ai pas de mal à penser qu'on le placera très très facilement.
Et si vous voulez aussi adopter Henri, c'est possible. Il se commande sur le site de l'atelier Emmaüs au prix de 135 €.
Le choix culturel ce soir se porte sur le théâtre Zingaro et Bartabas qui chevauche en terre yiddish. Le nouveau spectacle équestre du théâtre Zingaro renoue avec le cabaret. Bartabas, le célèbre cavalier, prépare en ce moment son cabaret de l'exil qui débute la semaine prochaine au fort d'Aubervilliers. Et ce spectacle rend hommage à la culture yiddish. Stéphane Capron s'est glissé en coulisses pendant les dernières répétitions.
Allez, allons-y pour la mulélane là.
Après avoir présenté des spectacles intimistes ces dernières années, 37 ans après le premier cabaret équestre de la compagnie Zingaro, Bartabas renoue avec cette forme théâtrale.
C'est presque la nécessité. Tout d'un coup, c'est devenu un... Voilà, j'estime ça comme un besoin, une mission presque même, hein, on peut employer ce terme, de revenir à une forme plus conviviale de théâtre. Quoi. Vu ce qui s'est passé, je pense que les gens ont besoin de se retrouver sur un rendez-vous plus fraternel, quoi, parce que je pense que le théâtre, c'est d'abord ça, c'est un partage fraternel de quelque chose ensemble, quoi, d'un moment d'émotion. Si vous voulez, là, vous enchaînerez juste musicalement avec la suite, les amants.
Bartabas a donc remis des tables et des chaises autour de la piste, comme au bon vieux temps, et son cabaret est consacré à la culture yiddish.
Pour moi, c'était important d'ouvrir sur cette culture-là parce que la musique klezmer est quand même très inspirée aussi de la musique zigane. Donc c'est aussi revenir au cabaret du début puisque il y a 40 ans, c'était cabaret caisse, c'était avec de la musique zigane. Donc c'est une couleur musicale qui est assez proche. C'est approfondir un peu cette notion de qu'est-ce que ça veut dire, une langue qui disparaît.
C'est parti pour plusieurs années de cabaret au théâtre Zingaro car le cabaret de l'exil est une série. Il va comporter 4 spectacles, tous autour d'une culture différente.
Le cabaret de l'exil de Bartabas et le théâtre Zingaro à partir de mardi prochain au fort d'Aubervilliers et un reportage clair à retrouver en longueur demain dans le rendez-vous coulisses dans le 6-9 du week-end.
Eh ben merci beaucoup pour ce bon conseil. Merci Frédéric Barrère. Un point météo dans un instant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Un temps plutôt agréable en perspective.
Oui, alors au nord de la Loire, on retrouvera tout de même la trace de notre perturbation le matin. Ce sera très nuageux, mais ça s'éclaircira l'après-midi. Partout ailleurs, vous aurez du soleil. Il sera un petit peu retardé par les brouillards et les nuages bas, surtout sur le sud-ouest où ils seront vraiment fréquents et parfois tenaces. Sur la Corse, ça restera nuageux avec un petit risque d'averse. Et puis côté température, ce sera un petit peu moins froid le matin, 1 à 6 degrés des frontières du nord vers l'est et le massif central, 4 à 9 ailleurs, jusqu'à 13 en Méditerranée. Et puis l'après-midi, 15 degrés à Lille, à Mulhouse, 17 à Paris et Lyon, 19 à Nantes, à Toulouse, 21 degrés pour Bordeaux, pour Marseille et 23 pour Ajaccio.
Et un petit mot pour dimanche, Élodie ?
Ce sera une très belle journée, ensoleillée, mais on aura quand même un ciel qui se voilera à nouveau par l'ouest à l'approche d'une perturbation. Donc des nuages qui deviendront plus épais près de la Manche, près de l'océan. Et la Bretagne ne sera peut-être pas à l'abri de quelques gouttes.
C'est noté. Merci beaucoup, Élodie Calac de Météo France.